Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi 15 août 2022. J'ai l'honneur de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Les pourparlers sur le nucléaire iranien doivent aboutir à la levée des sanctions américaines. 3 soldats syriens ont été tués par des frappes israéliennes. Et en Somalie, 13 terroristes Shebab ont été tués dans une frappe aérienne. C'était les principaux titres. En voici le journal. Les pourparlers sur la relance de l'accord sur le nucléaire de 2015 doivent aboutir à la levée des sanctions américaines afin de protéger les intérêts économiques de l'Iran, a déclaré dimanche 14 août Alfaz Amoui, porte-parole de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien. Il a fait ces déclarations après une réunion de la commission visant à évaluer le dernier cycle des pourparlers nucléaires à Vienne. Les sanctions doivent être levées de manière à bénéficier au peuple iranien et à permettre aux commerçants et aux hommes d'affaires d'effectuer des transactions avec d'autres pays, a-t-il indiqué, ajoutant que le gouvernement iranien est tenu de présenter un rapport sur la levée des sanctions à l'organe législatif pour examen. Le Parlement examinera le projet de texte qui sera discuté lors des pourparlers de Vienne, a noté M. Amoui. L'Union européenne a récemment présenté un texte final du projet de décision sur la relance de l'accord nucléaire iranien. En attendant les décisions politiques des autres parties prenantes au pourparlers de Vienne, l'Iran avait signé le plan global d'action conjoint avec les puissances mondiales en juillet 2015, acceptant de freiner son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions. Cependant, l'ancien président américain Donald Trump a retiré Washington de l'accord et réimposé des sanctions unilatérales à Téhéran, incitant ce dernier à renoncer à certains de ses engagements dans le cadre du pacte. Israël a lancé une attaque aux missiles sur l'ouest et le centre de la Syrie dimanche soir, 14 août. 3 soldats ont été tués et 3 autres blessés, a déclaré l'armée syrienne dans un communiqué. Dans la soirée de dimanche 14 août, des avions de chasse israéliens ont tiré plusieurs missiles sur des sites militaires à Damas, la capitale syrienne, ainsi que dans la ville côtière de Tartous, tuant au total 3 soldats. Des avions de guerre israéliens ont tiré des missiles depuis le ciel de Beyrouth, la capitale du Liban, contre des sites militaires situés dans la campagne de Damas, a indiqué l'armée syrienne dans un communiqué. Une autre attaque, lancée simultanément depuis la Méditerranée, a touché des installations militaires à Tartous, dans le nord-ouest de la Syrie, a-t-il ajouté. Des informations non confirmées indiquent que plusieurs explosions ont été entendues à Tartous et qu'au moins 2 missiles ont été tirés depuis l'espace aérien libanais vers la Syrie. Certaines sources libanaises ont cependant annoncé le nombre de missiles à 8. Des sources d'information rapportent que le système de défense a été déclenché à Tartous. L'agence de presse officielle syrienne Sana a annoncé l'interception par la défense aérienne syrienne de missiles hostiles dans le ciel de Tartous et au-dessus de la chaîne de montagnes de Ralamoun, près de la frontière libanaise. L'opération menée par le jeune Amir Sidavi, dimanche 14 août, à Rots occupée, a fait 8 blessés, dont 5 étaient de nationalité américaine. Le jeune palestinien Amir Sidavi a mené tôt dimanche matin, 14 août, une opération contre un bus près du mur d'Al-Burak dans la vieille ville de Rots. La fusillade a éclaté alors que le bus était stationné sur un parking près du mur d'Al-Burak. Le tireur est un Palestinien de Silvan, un quartier de Rots Est. La presse israélienne dit qu'il était arrivé sur le lieu de l'incident en voiture, qu'il a tiré 10 balles sur le bus et puis sur une voiture avant de s'en aller en tirant sur les sionistes le long de la rue. Après 6 heures, il a été identifié par la police israélienne qui a bouclé le quartier de Silvan. Son domicile a été perquisitionné et des résidents ont été interpellés. Peu après l'opération, un porte-parole du Hamas a salué l'opération héroïque contre l'arrogance des soldats de l'occupation et des colons extrémistes sans pour autant en revendiquer la responsabilité. L'attaque est survenue une semaine après que des avions israéliens ont mené une offensive dans la bande de Gaza visant le djihad islamique, déclenchant 3 jours d'intenses combats transfrontaliers au cours desquels le djihad islamique a tiré des centaines de missiles sur les positions israéliennes, causant des blessés et des dégâts matériels. Le Conseil judiciaire suprême CJS irakien affirme qu'il n'a pas l'autorité suffisante pour dissoudre le Parlement du pays, exhortant toutes les parties à s'abstenir d'impliquer le pouvoir judiciaire dans des rivalités politiques. Le CJS a fait cette annonce dimanche en réponse au religieux irakien Murtada al-Sadr. Mercredi, Sadr a mis en garde contre des conséquences non précises si le pouvoir judiciaire ne tenait pas compte de son appel à dissoudre le Parlement d'ici la fin de cette semaine et à ouvrir la voie à des élections anticipées. Soulignant que son travail principal est de traiter des questions juridiques, le tribunal a déclaré qu'il ne pouvait pas s'immiscer dans le travail des autorités législatives ou exécutives. L'Irak est aux prises avec une crise politique en l'absence d'un gouvernement fonctionnel depuis octobre, date à laquelle il a tenu ses dernières élections législatives. En juin, les 73 législateurs du bloc de Sadr ont quitté leur siège dans une décision considérée comme une tentative de faire pression sur leurs rivaux politiques pour qu'ils accélèrent la formation d'un gouvernement. Sadr et ses partisans ont contribué à attiser les tensions au cours des dernières semaines avec un grand nombre de ses partisans prenant d'assaut et occupant le Parlement, empêchant ainsi la formation d'un gouvernement près de 10 mois après les dernières élections. Le Koweït a nommé un ambassadeur en Iran plus de 10 ans après que le pays du Golfe Persique a rappelé son émissaire de Téhéran à la suite de la décision de l'Arabie Saoudite de rompre les relations diplomatiques avec la République islamique d'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a accepté samedi 13 août les lettres de créance diplomatique de Bader Abdullah al-Munaikh à Téhéran, selon un communiqué du ministère publié sur son site internet. Le ministère des Affaires étrangères du Koweït a également confirmé que Munaikh avait été nommé ambassadeur du pays arabe en Iran. Mohammad Irani est également ambassadeur d'Iran au Koweït. Le 26 juillet, M. Irani a déclaré au journal koweïtien Al-Rai que le ministre iranien des Affaires étrangères prévoyait de se rendre prochainement au Koweït. Le diplomate iranien a déclaré que le Koweït et l'Iran étaient en train de renforcer leurs relations, y compris sur le plan diplomatique. M. Irani a déclaré que le retour de la représentation diplomatique au rang d'ambassadeur est une question naturelle pour la solidité des relations bilatérales entre les deux pays, en particulier dans le domaine politique, entre les responsables iraniens et leurs homologues au Koweït. Ces remarques interviennent quelques jours après qu'Amir Abdollahian a annoncé que le Koweït et les Émirats arabes unis enverraient bientôt des ambassadeurs à Téhéran. Il a déclaré que l'ambassadeur des Émirats arabes unis reprendrait bientôt son travail en Iran et que le Koweït a également nommé son nouvel ambassadeur à Téhéran. Le ministère iranien des Affaires étrangères a approuvé les deux ambassadeurs arabes, a-t-il ajouté. Outre les liens historiques entre les peuples des deux pays, les relations entre les ministres des Affaires étrangères sont continues et bonnes, a déclaré l'ambassadeur d'Iran au Koweït. Les forces somaliennes ont tué dimanche, 14 août, plus de 13 terroristes du groupe Shebab, y compris des dirigeants ciblés, au cours d'une frappe aérienne menée dans la région de Hiran, dans le centre de la Somalie. La radio de l'armée nationale somalienne, SNA, a rapporté que parmi les victimes des opérations antiterroristes en cours, on comptait de hauts commandants Shebab. La frappe du dimanche a eu lieu quelques heures après que l'ISNA a déclaré que ses forces d'élite, Danab, étaient parvenues à déjouer cette explosion de mine passée par des terroristes Shebab en périphérie de Kismayo, dans le sud de la Somalie. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Poutine en sera là, le rapprochement. 48 heures après la rencontre Bogdanov-Abdesalam, où les deux parties russes et yéménites auraient évoqué PO-Yémen, pétrole et présence militaire US en mer Rouge, Abdelaziz Ben Abtour, le premier ministre du gouvernement de salut national du Yémen, a déclaré que la rencontre avec la partie russe était basée sur des intérêts communs. Soulignant que les résultats du voyage d'une délégation yéménite en Russie sont importants pour les deux pays, Ben Abtour a déclaré au micro de la chaîne d'information Al-Masira le samedi que le Yémen et la Russie partagent un point commun, à savoir affronter le projet américain dont de nombreux pays dans le monde en souffrent. Il a déclaré que le Yémen essaie de s'unir aux alliés, dont l'amitié est basée sur le principe de l'égalité, des intérêts communs et de la lutte contre des ennemis communs. Ce responsable yéménite a indiqué que son pays tentait de s'allier avec la Chine et la Russie. Dès le premier jour, nous avons annoncé notre désaccord avec la politique américaine. La fausse légitimité que les États-Unis et l'Arabie saoudite prétendent soutenir n'est qu'une couverture pour piller et voler les ressources pétro-gazières yéménites et les verser dans des banques saoudiennes, a-t-il dénoncé. La Russie et Ansarallah ont-ils des projets communs en mer Rouge propres à bloquer le détournement des richesses yéménites ? Possible. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé avoir reçu le mercredi 10 août une délégation d'Ansarallah à Moscou pour discuter des perspectives de parvenir à un règlement politique de la guerre au Yémen qu'on sait être impossible tant que les Yankees convoiteront les gisements yéménites. Au fait, les analystes politiques relèvent un changement substantiel de la politique russe au Yémen, où jusqu'ici Moscou se sentait proche des séparatistes sudistes soutenus par les Émirats. Un rapprochement de Moscou avec Ansarallah est par ailleurs à interpréter dans le contexte de la guerre en Ukraine, où la résistance yéménite a été l'une des premières parties à avoir reconnu l'indépendance de Donbass. Militairement parlant, les capacités militaires d'Ansarallah ne peuvent que susciter l'intérêt des Russes, ainsi qu'il en est question dans un récent livre publié par l'ex-chef d'état-major russe, le général de division Yuri Balievski, ancien chef d'état-major des forces armées russes, de 2004 à 2008. Le succès de l'Iran dans le développement de missiles guidés et les drones est relativement peu coûteux en utilisant divers composants et matériaux disponibles dans le commerce. Il est permis d'organiser leur assemblage et leur production sur le territoire de ses alliés. Balievski souligne que les munitions relativement légères et les missiles alliés, ainsi que les missiles balistiques les plus avancés dont dispose Ansarallah, créent toujours de sérieux problèmes pour les systèmes de défense aérienne de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis qui sont dotés des systèmes modernes occidentaux. Et cela crée un tout nouveau modèle de combat.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de débat. Nous allons parler de la crise russo-ukrainienne, mais surtout ces derniers bombardements qui ont ciblé la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine. Et des attaques ont également lieu le 11 août dernier. Suite à ces attaques, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé la communauté internationale, mais notamment les États-Unis, d'intervenir et de réagir et de faire sortir les Russes de cette région. Mais il semblerait, surtout depuis le début de la crise russo-ukrainienne, depuis ces derniers mois, que de moins en moins de personnes, et surtout d'Ukrainiens, font confiance au président Zelensky, mais surtout que le président ukrainien perd en crédibilité aussi bien dans la scène intérieure que sur la scène internationale. Dans le contexte actuel et surtout avec les aides militaires américaines vers l'Ukraine, cette crise qui continue, mais aussi des tensions entre les États-Unis et la Russie, que devrait-on s'attendre de cette crise dans les jours, les semaines et les mois à venir? On en parlera avec nos deux invités, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder un reportage préparé à ce sujet par mes collègues. On revient tout de suite après.
Le 8 août, la Crimée a été frappée par cette explosion visiblement provoquée par des chasseurs US. Les Criméens commencent à en trouver les traces. La Russie s'en approchait directement des frontières US, question de vengeance. Des débris d'un missile supersonique 9M335 ont en effet été découverts sur une plage de la côte de Crimée par les habitants d'Alushta, apprend-on du site web militaire russe AviaPro. Il y a quelques heures, des habitants de la Crimée ont découvert des débris d'un missile supersonique dans la partie sud-est de la péninsule. Ce dernier serait tombé sur la côte d'Alushta. Cependant, on ne sait toujours pas exactement comment il s'est retrouvé dans cette zone de la mer Noire. Sur les images vidéo présentées, on peut voir le moment de la détection de l'épave du missile supersonique 9M335. Ce dernier apparemment a été tiré par le système de missiles et de canons anti-aériens Panzer S. Néanmoins, les circonstances de l'apparition de débris d'un missile supersonique ici soulèvent jusqu'à présent de nombreuses questions, car ce dernier n'aurait pu être transporté sur la côte sud-est de la Crimée que depuis la partie orientale de la mer Noire ou directement lors du tir au système de défense aérienne déployé près du pont de Crimée. Suite aux attaques contre la base aérienne russe en Crimée, des avions militaires russes se sont approchés des frontières de l'espace aérien américain.
Alors, en effet, les États-Unis ont donné leur feu vert au plus grand programme d'assistance militaire à l'Ukraine, qu'il s'agit d'une aide militaire de plus $1 milliard, donc de véhicules, de blindés et d'aide militaire de tout genre à l'Ukraine. Alors, qu'en sera-t-il de cette crise dans les mois à venir? À quoi devrait-on s'attendre? On en débat avec nos deux invités, Fabrice Péor, expert pour l'ONG EOD, qui est avec nous depuis Moscou, donc la Russie, et Luc Michel, géopoliticien, qui est avec nous depuis Bruxelles, la Belgique. Je vous dis bonjour, messieurs. Si vous me permettez, je commence avec vous, monsieur Péor, Fabrice Péor, qui est avec nous depuis Moscou. Alors, monsieur Péor, vous qui suivez de très près les évolutions et cette crise, où en est la crise en ce moment, à votre avis?
Nous sommes aujourd'hui dans une phase, on va dire, particulière, puisque bon, les États-Unis, évidemment, et l'OTAN et tous les pays de l'Union européenne qui suivent, puisqu'ils suivent automatiquement, c'est l'OTAN qui commande. Hein. Et donc, nous sommes dans une situation où vous avez les États-Unis qui ont bien compris, de toute façon, que l'armée ukrainienne ne pouvait pas gagner, même stabiliser le front face à l'armée russe, puisque leur premier objectif, les objectifs des Américains, c'est finalement pas tellement de gagner la guerre en Ukraine. L'Ukraine n'est qu'un un pion dans le cadre de leur politique de confrontation avec la Russie. Et comme cela a été dit, ils se battront jusqu'au dernier soldat ukrainien. Non, aujourd'hui, ils savent, comme toujours, lorsqu'ils ont perdu un affrontement, ils veulent le faire perdurer, ils veulent éviter évidemment que la paix s'installe et surtout ils veulent faire saigner le plus possible leur ennemi, dans le cas précis, donc apprécie la Russie. Ce pourquoi il livre de plus en plus des armes, mais vous aurez remarqué tout de même, et les provocations, puisque on en parlera peut-être, mais les tirs ukrainiens sur la centrale nucléaire de la région de Zaporoger, c'est quand même une limite que les Américains, je pense, on commence à en voir le danger du seul fait que vous avez, face à des questions de journalistes, un représentant du Pentagone qui avait dit ben, « Nous livrons les armes, mais ce n'est pas nous qui désignons les cibles », ce qui est tout à fait un mensonge, puisque la plupart des armes qu'ils ont communiquées, transmises, on va dire, à l'armée ukrainienne et à tous ces groupes ukro-nazis, sont la plupart du temps manipulées par des contracteurs américains qui officiellement ne sont pas dans l'armée américaine. Ils ont juste posé leur démission et ils la reprendront lorsqu'ils reviendront aux États-Unis. Donc, on comprend bien l'hypocrisie de la chose. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, évidemment, on est de plus en plus dans les provocations parce que l'opinion internationale, en particulier des pays occidentaux, commence à être lassée de cette propagande et surtout la guerre de la communication, c'est une chose, parce qu'ils vivent beaucoup à Kiev ou à Washington ou dans les médias de l'OTAN sur cette guerre de la communication. Mais ce n'est pas celle qui fait gagner les batailles sur le terrain. Et sur le terrain, c'est bien l'armée russe qui avance petit à petit selon la stratégie qui a été adoptée. Donc, ils vont de plus en plus vers les provocations. Les tirs possibles ou pas, puisqu'il n'y a pas véritablement encore, l'affaire est assez claire sur les tirs sur la Crimée. Il y a encore beaucoup d'éléments tout de même à vérifier. Il ne faut pas, évidemment, nier s'il y a des choses qui ont été faites, mais c'est pas extrêmement clair. Mais par contre, sur Zaporoger ou sur d'autres provocations qui sont en cours, il est évident qu'il va falloir s'attendre de plus en plus à ce genre de provocations. Mais Washington, juste évidemment pour se protéger, mais ils ne changeront pas de politique pour autant, se désolidarise publiquement, tout du moins, de ces tirs, on va dire, de la part des Ukrainiens, puisque même s'ils sont guidés, manipulés, puisqu'ils ont été mis au pouvoir par le coup d'État du Maïdan en 2014 par les Américains, il n'empêche qu'ils sont quand même pas 100% contrôlables, surtout avec tous les groupes ukro-nazis qui sont vraiment dans une politique de la terre brûlée.
Merci pour vos explications. Restez avec nous, M. Béor. Alors, Luc Michel, comme vient de dire M. Béor, les États-Unis se désolidarisent, surtout dans certaines attaques et tirs lancés par les Ukrainiens, dans cette crise. D'un autre côté, nous savons bien que les États-Unis sont impliqués dans une guerre, enfin pas une guerre encore, mais des désaccords entre la Chine et Taïwan. Et donc, ils s'impliquent petit à petit dans cette affaire également. Les États-Unis sont également impliqués dans plusieurs autres dossiers et affaires dans le Moyen-Orient. À votre avis, est-ce que tout ceci pourrait mener à ce que les États-Unis délaissent petit à petit Zelensky dans cette crise et que, en fin de compte, Volodymyr Zelensky se trouve seul et délaissé par ses soi-disant alliés dans cette crise?
Tout d'abord, bonjour à vous et à votre équipe. Et bonjour surtout à Fabrice. Nous sommes un peu en famille puisque Fabrice représente Prochain. Et moi, je suis... il faut comprendre quelque chose, c'est que les Américains ont rencontré une partie de leur but de guerre en Ukraine. Ils ont creusé un fossé entre les économies ouest-européennes et la Russie, et ils ont plongé la Russie dans un conflit militaire long avec l'Ukraine. Mais évidemment, peut-être des États-Unis, il y a eu un désaccord entre les différents réseaux. Et à côté de ça, il y a évidemment la perte de crédibilité de Volodymyr Zelensky. Il y a un livre qui est sorti par un journaliste américain la semaine précédente, où on montre la corruption de Zelensky, les comptes offshore, les Panama Papers, etc. Il est accusé avec son épouse d'avoir fait des bénéfices de plus d'un milliard de dollars sur le compte de la guerre. Et on commence à revoir une partie des armes américaines revendues en Afrique notamment. Mais la deuxième chose, évidemment, les Américains ont fait une erreur stratégique profonde. Ils ont choisi de mener la guerre sur deux fronts. Le front de mer Noire où la Russie est l'adversaire immédiat, mais deuxièmement la mer de Chine où la Chine est l'adversaire prioritaire. Ce n'est pas valable et une partie de l'establishment américain voudrait se consacrer à la Chine. Il y avait à la tête des États-Unis, et ça a été tel quel très visible lors du sommet de Davos, il y a les réseaux qui sont derrière Kissinger, qui veulent négocier avec la Russie. Il y a les réseaux qui sont derrière George Soros qui veulent la confrontation avec la Russie. Ce qui est intéressant de suivre, c'est l'affaire du rapport d'Amnesty International qui accuse l'armée ukrainienne de se dissimuler derrière la population civile, notamment dans les écoles et les hôpitaux, ce que nous n'avons jamais cessé de dire depuis les premiers jours de l'opération spéciale. Il y a actuellement une espèce de guerre civile au sein des réseaux de George Soros entre ceux qui défendent Amnesty International et qui veulent évidemment mettre, comme on dit, de l'eau dans leur vin, et ceux qui continuent la ligne pro-russe. C'est intéressant à suivre, évidemment, mais il est bien certain que pour les Américains, s'ils veulent se confronter à la Chine, ils doivent absolument quitter le territoire d'Europe centrale, d'autant plus qu'en Europe même, les Européens commencent à manifester une extrême lassitude. Il y a une lassitude de la population qui est face à la crise économique qui arrive seulement, les pénuries d'essence, de gaz et d'électricité, mais aussi la présence de millions de réfugiés ukrainiens dont le comportement est très dommageable pour les populations européennes. Par exemple, alors que l'on conteste l'aide sociale aux Français ou aux Belges, un réfugié ukrainien a 1250 euros d'aide sociale par mois, plus 250 euros par enfant. Tout cela est refusé par la population. Et maintenant, évidemment, il y a une partie des élites européennes, militaires, industrielles, pétroliers, etc., qui ne veut plus de la confrontation avec la Russie. En particulier, il faut suivre l'affaire du chancelier Schröder. Celui-ci a été pénalisé par le Bundestag allemand et il est en train d'organiser la contre-offensive en attaquant en justice les parlementaires russes. Donc, évidemment, il y a une tendance des Américains à se dégager de la crise ukrainienne.
Et, mais d'un autre côté, Fabrice Béor, cette aide militaire, cette énième aide militaire américaine, et qui s'élève jusqu'à $1 milliard de munitions à l'Ukraine dans la conjoncture actuelle, avec ce qui se passe sur le terrain, ne contribuerait-elle pas à la dégradation de la situation, M. Béor?
D'un point de vue militaire, non. Ça fait peut-être les titres des journaux, des médias de l'OTAN, des médias occidentaux, mais sans plus que ça, comme je vous l'ai dit, ils sont, depuis le début, en particulier la junte de Kiev, puisque leur faiblesse évidemment structurelle, c'est leur armée. Je rappelle qu'ils ont, bientôt, ils vont prolonger l'état d'urgence et d'ailleurs la conscription, c'est-à-dire qu'ils vont faire la chasse aux Ukrainiens qui ne veulent pas aller se battre, même avec qu'une solde. Et grosso modo, ils ont peur de ne pas payer les soldats. Donc, c'est-à-dire que s'ils ne payent pas les soldats, ils savent que les soldats ne vont pas se battre. Donc, vous voyez, le patriotisme, il est sonnant et trébuchant. Ce qui prouve qu'il n'y a pas de soutien populaire en réalité, à part dans quelques régions de l'Ouest, qui est l'origine, en fait, de ce qu'on peut appeler le cancer benderite. Mais vous avez, en réalité, une situation militaire sur le terrain qui est en faveur de la Russie. Vous avez souvent toujours le discours, rappelez le discours au tout début, la Russie n'a que trois jours de missiles Zircon, ils n'ont plus d'obus, ils vont bientôt mourir de faim. Enfin bon, on avait des choses assez ridicules qui pouvaient fonctionner peut-être au tout début dans les masses un peu naïves occidentales qui prennent à manger des médias mainstream, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, on le voit bien, c'est que les Russes avancent petit à petit, c'est une bataille d'artillerie, c'est on tire, on détruit les positions, on avance, il y a quelque chose qui résiste, on fait marche arrière, on tire, on avance. Alors évidemment, c'est lent, mais c'est efficace. Et le reste n'est que de la guerre de communication. Ils vont tirer à droite, ils vont tirer à gauche, ils font du chantage. Le vrai problème et le vrai danger, c'est que cette junte de Kiev, quand au début Vladimir Poutine parlait de dénazification, certains disaient ouais c'est l'exagération de la propagande, même certains pro-russes disaient c'est exagéré, ils sont pas tous nazis, etc. Évidemment tous les Ukrainiens ne sont pas nazis, mais la structure du pouvoir, les groupes majoritairement combatifs au sein des forces armées ukrainiennes sont des groupes ukro-nazis, parce qu'on a parlé d'Azov, mais il y en a des dizaines et des dizaines de groupes comme ça, et encore plus pire d'ailleurs. Donc on est dans une situation où en fait ces gens-là, qui considèrent tous les gens qui ne parlent pas ukrainien, comme des occupants, c'est-à-dire des gens qui doivent être exclus du territoire de ce qu'ils considèrent comme leur pays, et ils peuvent être donc éliminés. Ce pourquoi ils tirent sur les civils, ils ne les considèrent pas comme leurs compatriotes, donc ils sont prêts à n'importe quelle provocation, et vous avez le chantage de la junte de Kiev sur la centrale nucléaire de Zaporojé. Et c'est là où on voit, en fait le danger, c'est que même les institutions internationales, si imperfectibles, si on va dire contestable qu'elle soit, telle que l'ONU, qui est un machin, comme disait le général de Gaulle, a démontré aujourd'hui qu'il est totalement aux mains des Occidentaux, puisque lorsque vous avez les représentants non seulement de l'Agence d'énergie atomique, mais également le secrétaire général de l'ONU, qui fait semblant de ne pas savoir que ce sont les Ukrainiens qui tirent, ça s'appelle de la complicité. Et lorsque vous tirez sur une centrale nucléaire, ce n'est pas un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité. Donc le danger vient en fait... effectivement de ces extrémistes nazis qui ont été soutenus depuis 2014, puisque c'est eux qui ont fait le coup d'État en 2014 et qui sont aujourd'hui dans tous les rouages de l'État et dans tous les rouages de l'armée, qui sachant très bien qu'ils sont en train de perdre la guerre et que par la suite leur seul moyen de survie c'est de quitter le territoire de l'Ukraine parce qu'ils seront pourchassés par la Russie qui met en place aujourd'hui un tribunal international et qui va juger tous ces gens-là, eh bien, vous avez effectivement des gens qui ont peut-être aujourd'hui plus rien à perdre, surtout avec l'idéologie extrémiste qui véhicule et qui est supportée par également la partie extrémiste des États-Unis qui veut en découdre avec la Russie. Le danger vient en fait de ces extrémistes occidentaux américains qui se servent de hier au Proche-Orient du terrorisme djihadiste et en Europe avec nos amis, évidemment, les nazis démocrates du Maïdan. Donc le danger, il est là, mais en réalité, sur le terrain, vous savez, c'est qu'une question de temps. C'est d'abord le Donbass qui sera libéré, et après, vous avez en face, en fait, il n'y aura déjà plus de l'armée ukrainienne qui sera réduite en général par rapport aux informations qu'on a pu avoir au début de la guerre. Il ne restera plus qu'un tiers de l'armée qui existait auparavant, avec en plus du personnel qui n'est pas si formé que ça, puisque c'est des gens qui ont été formés 15 jours et qu'on envoie en fait à la boucherie. Et vous avez en fait des plaines. Donc les gens qui pensent que la guerre va être longue, la paix va être longue, est instaurée. Mais la guerre, croyez-moi, qu'elle est déjà gagnée. C'est juste une question de temps aujourd'hui. Et les provocations américaines, c'est peut-être le seul danger qu'il faut bien cadrer. Ce pourquoi aujourd'hui, vous avez une communication de la part, et je terminerai là-dessus, de la part du Kremlin et des autorités diplomatiques russes sur justement via l'ONU et via les médias, la mise en lumière justement de ces provocations nucléaires et faire appel peut-être à quelques personnes qui sont encore en Occident et en Europe et un petit peu de jugeote et de bon sens.
Merci pour vos explications, Fabrice Béor. Restez avec nous. Mais Monsieur Michel, en parallèle à la question militaire et toutes les explications que Fabrice Béor vient de nous dire, il y a aussi une question économique, la question de l'énergie. Les pays européens sont en manque d'énergie, surtout l'hiver arrive. Donc il y a de gros manques et de gros problèmes en ce qui concerne la question de l'énergie et les sanctions contre la Russie et toutes ces questions. À votre avis, en ce qui concerne ce sujet, cet aspect de la crise russo-ukrainienne, vers où se dirigeront-ils les pays européens dans les mois à venir ?
Avant de vous répondre, je tiens à donner une précision sur la soi-disant aide militaire des États-Unis à l'Ukraine. Ce ne sont pas des dons. C'est un mécanisme qui a été mis au point en 1940 pour aider la Grande-Bretagne. On appelle ça le prêt-bail. C'est-à-dire que l'Ukraine va mettre des décennies à rembourser. Une partie de l'argent a été évacuée par la corruption, notamment par celle des époux Zelensky. Mais la Grande-Bretagne, par exemple, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a perdu son empire à cause de ces mécanismes-là. Donc c'est de l'argent qu'il faudra rentrer. L'Ukraine est déjà en faillite virtuelle et elle est en défaut de paiement. Les agences de notation d'ailleurs n'arrêtent pas de dégrader la note de l'Ukraine. Et bien entendu, la véritable question qui commence à se poser aux États-Unis d'ailleurs, c'est pour ça que les États-Unis rétropédalent, c'est qu'ils commencent à comprendre qu'ils ne seront jamais remboursés de ces prêts-bail. Voilà la première chose que je veux dire. Deuxièmement, les États-Unis ont engagé contre la Russie une guerre économique faite de trois volets. Le sanction, la guerre du gaz et la guerre du pétrole, la guerre des hydrocarbures. Donc, eh bien, cette guerre-là, parce que Vladimir Poutine s'y est préparé depuis 2014, il faut oublier que la Russie n'est pas sous sanction depuis 4 mois, mais elle est sous sanction depuis le dossier de Crimée et du Donbass en printemps 2014. Poutine s'est préparé à la faire et il est en train de gagner aussi bien la guerre des sanctions, qui est un boomerang qui se retourne contre les économies européennes, qui plonge dans la crise économique et dans la récession, en particulier en Allemagne. Deuxièmement, il est en train de gagner la guerre du gaz et il est en train de gagner la guerre du pétrole. Il est en train de la gagner d'ailleurs avec l'aide de l'Iran, je tiens à le souligner. Les Américains disent que l'Iran est l'épée géopolitique de la Russie, c'est-à-dire que l'Iran a accepté de ne pas fournir du gaz en Europe et de laisser la Russie dominer le marché européen, c'est-à-dire que l'Iran a choisi de ne pas encaisser des pétrodollars, mais de soutenir stratégiquement son allié de la Russie, compte évidemment des avantages stratégiques. Voilà ce qui est en train de se passer. L'Ukraine, évidemment, elle est en train d'être complètement ruinée, d'autant plus que la Russie vient d'interrompre le passage du gaz par les oléoducs ukrainiens et le transfert du pétrole par les oléoducs ukrainiens. Dmitri Medvedev a prévenu que chaque attaque économique dorénavant se paierait cash, l'ancien président russe. C'est cela qu'il faut constater. Et bien entendu, ça explique évidemment la panique des milieux européens, mais également de certains milieux américains, parce que pour tous les partisans du business, c'est bien de prêter de l'argent à l'Ukraine, mais il faudrait qu'elle puisse rembourser. Or, ça n'arrivera jamais. Il ne faut pas se faire d'illusions. D'autant plus que l'Ukraine a développé un système d'espèces de bons de guerre qui ne sera à aucun prix, à aucun terme remboursé.
Merci à vous, Luc Michel. Fabrice Péor, nous avons près de 2 minutes devant nous. Le mot de la fin, à vous.
Beaucoup dans les médias occidentaux sont toujours en train de, surtout les médias français, heureusement que je ne les regarde pas tout le temps, mais lorsque je les regarde, on est vraiment Big Brother 1984, la vérité inversée. On reproche aux Russes ce que font les Ukrainiens avec des montages vidéo qui sont assez ridicules et qu'il suffit de regarder avec un œil attentif pour s'apercevoir de la grossièreté du montage et de la construction, on va dire, du discours. Mais la seule question, c'est que l'Ukraine, dans son obsession sur la Crimée, aujourd'hui est en train de se détruire elle-même. Nous avons donc aujourd'hui des gens qui parlent de l'Ukraine, qui parlent de la reconstruction de l'Ukraine, mais ma question c'est quelle Ukraine ? Parce que aujourd'hui, à minima, le Donbass et la République populaire de Donetsk et de Lugansk, ainsi que l'oblast, c'est-à-dire la région de Zaporogé et de Kherson, vont rejoindre la Fédération de Russie. C'est une évidence. Il est fort possible que Kharkov, et il est fort possible jusqu'à Odessa, ça le soit également. Je dis pourquoi possible, je terminerai là-dessus, parce que la Russie a engagé l'opération spéciale militaire parce qu'il n'y avait plus de solution diplomatique. Donc c'est la continuation de l'action politique face à un blocage vis-à-vis du bloc occidental qui était dans la confrontation et non pas dans la recherche du compromis. Et donc, tant qu'il n'y aura pas de compromis, tant qu'il n'y aura pas d'accord, et la Russie aujourd'hui, les accords, c'est accepter son ultimatum, il n'y a pas de négociation, c'est très clair maintenant, continuera à prendre des territoires, et moi je dirais libérer des territoires qui correspondent à la Novorossiya d'hier, à ce qui était un territoire russe et qui le redeviendra, et vous verrez, et on le voit déjà, même CNN, et je terminerai là-dessus, montre un reportage, vous voyez les gens qui étaient passés du côté ukrainien, qui repassent du côté russe, et c'est bizarre parce qu'aucun du côté russe passe du côté ukrainien, l'Ukraine n'existe plus. C'est quelque chose qui est terminé. Il va falloir que les Occidentaux, et en particulier les Européens, le comprennent parce que leur intérêt n'est pas de suivre les États-Unis. Et je pense que cet hiver va faire réfléchir plus d'une personne. En tout cas, j'espère que le bon sens reviendra et que l'idéologisme de certains et le suivisme, c'est-à-dire la soumission aux États-Unis, pourront être tout du moins dégagés. Et en cela, j'espère simplement que les milieux du business européen feront pression ou alors lâcheront les hommes politiques qui, jusqu'à présent, les ont soutenus puisque leurs intérêts aujourd'hui sont divergents.
Fabrice Péor, expert pour l'ONG EOD, Luc Michel, géopoliticien, était avec nous pour ce débat. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Je vous souhaite très bonne journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Hushang Ebtehaj, de la douleur et de l'amour. Tu écoutes le récit de mon cœur ce soir. Tu oublieras demain et moi et mon histoire. Cœur brisé, gonflé de chants de larmes, de solitude et de passions amoureuses, nous prenons le large dans l'espoir d'atteindre la côte pacifique. Nous rompons des lances contre le vent, contre la tempête. Nous avançons et avançons fredonnant nos chants à l'unisson. Avec les oiseaux de mer, nous nous envolons, au soleil, sous la pluie et au clair de lune. Dans le royaume de l'amour, nous sommes au pays du Rasa. Ainsi commence notre voyage vers la contrée lyrique de Hushang Ebtehaj, né en 1927 et mort en août 2022. Très jeune, celui-ci se fit le fidèle compagnon du papillon et de la bougie pour crier un amour fou et désespéré. Il ne tarde néanmoins pas à prendre part à la fièvre politique de son époque. Les farouches événements du mois d'août 1953. Inlassablement, il opposera son verbe à l'oppression. Il prendra position en faveur de ceux parmi ses camarades qui connurent la géole. Voilà qui explique pour beaucoup la noirceur de la majeure partie de ses textes. Lyrisme et politique oblige. Les paroles douloureuses du poète, des larmes, se transfigurent alors en sang versé. La rigueur de la bien-aimée conduit à la révolte contre la tyrannie. Et le poète engage sa plume dans son combat pour la liberté. Quand la langue craignait les lèvres, quand la plume redoutait la feuille, et que même la mémoire se troublait, de peur de parler en plein sommeil, nous gravions ton nom dans nos cœurs, comme un dessin sur le rubis. Le baiser. Le chant le plus doux, lui demandai-je. De ses yeux endoloris, elle me fixa. Ses larmes tombèrent goutte à goutte. Sa longue chevelure se mit à frémir. Et pleine de douleur, elle fredonna. Le gémissement des chaînes en mes mains. Et quand elle se libère, dis-je, elle révéla un sourire amer. Quel bel espoir, dit-elle, mais hélas, mon triste sœur ne le permettra pas. Son bateau d'or du soleil est brisé par les rochers de la côte ouest. Je tremblais d'une douleur amère, pleurant avec elle le fond de mon cœur. « Regarde, criai-je, sur cette aveugle mer. L'œil de tout astre comme un phare peut diriger les bateaux. L'œil de tout astre, répondit-elle en levant les yeux au ciel, serait un phare pour bateaux. Cependant, cette nuit est une profonde mer. Hélas, que de passagers nocturnes, emportés en sommeil par la magie du soir. » Le phare de la lune, dis-je alors, fait bien part du réveil. Mais dans une si sourde nuit, pas un seul chant ne s'entend, dit-elle. Mon cœur bat cependant, criai-je. Écoute, c'est le son des pas d'un ami. Hélas, dit-elle, dans ce piège de la mort, on entraîne encore un gibier. le son des pas et de lui. Des pleurs déferlèrent en moi. Et le plus beau sourire, lui demandai-je, en plein milieu des larmes. Une flamme éclot dans ses yeux noirs. Le sang lui monta aux joues. Le sourire, dit-elle, que l'amour noble met sur les lèvres des hommes au moment de rendre l'âme. Je me levai alors et lui donnai un baiser. Pleurer. Sous les arbres, les ombres pleurent au soleil vert couchant. Les branches attendent le sort du nuage. Et le ciel est comme moi brumeux et endolori. Le vent t'apporte l'odeur de la terre humide. Les herbes au passage de la nuit sont tristes. Ah, sur quel champ pleut-il? Brûle le jardin dans l'espoir de la pluie, tel mon cœur désirant fondre en larmes. Le corail. Sous les eaux se trouve une pierre, dans le creux noir de la mer bleue, assise en solitaire, au fond de cette épouvantable tombe. Avec son silence, elle est oubliée au fond de cette tanière noire. Le soleil de midi ne l'a jamais chauffée. Le clair de lune sur elle n'a jamais rayonné. Que de nuit, elle a gémi. Et personne n'est venu pour la secourir. Que de nuit, elle pleura à chaudes larmes, vainement. Au creux de ce bleu, sous les eaux, se trouve une pierre. Une pierre brisée. Pourtant, elle est vivante. Elle palpite au gardant d'espoir. Dans la poitrine d'un amant, elle était un cœur. Chauffé à l'ombre du soleil, elle lui était une fleur. Le soleil couchant. Un vieil arbre, brisé, desséché, perdu, solitaire, est assis dans le silence effrayant des champs. Le regard au loin, déprimé sous le triste soleil couchant, un corbeau accablé était endolori. Retournant à son nid, sur ses branches desséchées, s'éteignit la lueur des derniers sourires du soleil. Hamid Mossadegh, de la séparation. Ces vers, écrits en 1964, devenus très tôt populaires, constituaient le mot d'ordre des étudiants réfractaires à la dictature de l'ancien régime d'Iran. Ils sont par ailleurs révélateurs de l'atmosphère de révolte dans laquelle baigne la poésie de Hamid Mossadegh, 1939-1998. Le titre de son premier ouvrage, L'étendard de Kaveh, 1961, illustre cette dimension essentielle de l'œuvre de l'auteur. Celle-ci est cependant profondément marquée, comme les textes d'un grand nombre de poètes de l'époque, par la célébration de l'amour, la plainte contre la séparation et le pesant désespoir de l'amant, déçu dans sa quête de bonheur auprès de sa bien-aimée. Un profond pessimisme est ainsi à l'œuvre chez ce poète. Pourtant, Mossadegh ne manquera jamais, tout au long de sa vie d'artiste, de chanter l'amour, tout en continuant de nourrir son tempérament de contestataire. Si je ne deviens pas nous, si tu ne deviens pas nous, tu seras toi. Peut-être pourrions-nous attiser de nouveau la flamme de solidarité en Orient. Peut-être pourrions-nous dénoncer les malhonnêtes. Si je me lève, si tu te lèves, tout le monde se lèvera. Si me j'assois, si tu t'assois, qui se lèvera? Prélude. Tu as ri de moi et tu ne savais point Quelle peur me prit quand au jardin du voisin, je volai la pomme. Le jardinier courut après moi. Il vit la pomme dans ta main et me regarda avec fureur. Cette pomme mordue de ta main tomba au sol. Et tu partis. Mais toujours, depuis des années, le bruissement de tes pas se démultiplie doucement et doucement à mes oreilles et me gêne. Et depuis, je suis plongé dans l'idée pourquoi notre petite maison manquait de pommes. Parfois, je me demande qui t'apprendra la nouvelle de ma mort. Ce jour-là, si seulement je pouvais voir ton visage, ton haussement d'épaule indifférent, et le mouvement de ta main, c'est-à-dire, peu importe, ton haussement de tête. Tiens, enfin il est mort. Hélas, si seulement je pouvais voir, je me dis, qui croirait que le feu de ton amour embrasa la forêt de ma vie?
Thank you.